Kiosque Magazine.
Bien bonjour, c'est notre première édition en 2015. Alors, je veux évidemment vous souhaiter toute la meilleure année possible avec beaucoup de santé. On ne fait rien sans elle et je le sais. Alors aujourd'hui, Michel Audette est en vacances au soleil, le chanceux, par la journée que nous avons. Et c'est Geneviève Patterson qui va le remplacer. Les articles dont nous allons vous parler, ça va être au sud du sud. On en a bien besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est l'épisode 4, extrait de Découverte Magazine aux éditions web, enfin des éditions web. L'autre article, Le domaine des flocons passe du vert au blanc. C'est bien intriguant ça, hein? De Justine Mercier dans la presse. Et le fructose, l'alimentation, on va en parler bien sûr, encore plus toxique que le sucre ordinaire. Tout ça sont les articles dont Geneviève va nous parler. En ce qui me concerne, je vais vous présenter un article qui s'appelle « Éco-trafic », extrait de Afrique Magazine. « Les TDAH », et j'y tiens beaucoup, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, un avantage aussi. Et le dernier article, « La ruée vers le sable ».
Sud du Sud, épisode 4. 4, oui. Venezuela, le souffle des Caraïbes, par David Riendeau. C'est sur l'édition web de Découverte Magazine et ça a été mis en ligne le 5 janvier dernier. Alors, comme André le disait tout à l'heure, en fait, c'est un clin d'œil à Michel qui se trouve dans le Sud en ce moment. Alors, je lui dédie ma lecture.
Pas ça, pas ça.
Venezuela, le souffle des Caraïbes. J'expulse de ma bouche une importante quantité d'eau. Un goût salé reste sur mes lèvres. Je m'accroche à la planche à voile tandis que les vagues me ballottent comme un vulgaire tonneau. Au loin, les nuages gris se mêlent aux flots turquoise de la mer des Caraïbes. Mon instructeur, Francisco, se tient derrière moi les bras croisés, le corps à demi immergé. Le mât doit rester droit tout le temps. S'il est trop penché, tu vas chercher à compenser avec ton poids. Voilà pourquoi tu tombes. Je fais signe que j'ai compris. La planche à voile n'a rien d'aisé, faut le croire. Ça fait une heure que je me hisse sur la planche, monte dessus, cherche mon équilibre, avance 2-3 mètres avec la lenteur d'une tortue marine sur le sable, puis tombe sur le dos ou face première à l'eau en buvant ma ration d'eau salée. Autour de nous, la plage de El Yaqui est plutôt tranquille en cette matinée du réveillon de Noël. La pluie intermittente a épouvanté les baigneurs et les flâneurs. Seuls restent les vendeurs ambulants et une poignée de sportifs. Sur l'île de Margarita, la plage de El Yaqui est synonyme de planche à voile et de kitesurf. La clémence de son climat, la constance de ses vents et la tiédeur de ses eaux expliquent pourquoi cette destination est le chouchou de plusieurs mordus de nautisme. La grâce avec laquelle les planchistes voguent sur la mer m'a toujours laissé admiratif. Aussi, en débarquant sur l'île, j'ai voulu m'initier à ce sport. Pour une poignée de dollars, plusieurs centres de nautisme offrent une leçon avec instructeur. Pour ma première session, Francisco, un insulaire, m'a enseigné les rudiments de ce sport. « Tout est question de posture », m'apprend-il. « Les pieds doivent se tenir de telle façon sur la planche que le corps puisse se maintenir en équilibre, le tout en maintenant les bras raides sur la barre, la tête haute et le corps souple. » Plus facile à écrire qu'à accomplir.
Mais ça, je le sais, je peux vous le dire, d'expérience.
Mais au bout de 10 essais infructueux, David Riendeau est parvenu à se tenir droit et à avancer de quelques mètres, puis de revenir à la rive comme un grand. Il termine en disant qu'un sentiment de fierté immense grandit dans mon cœur. On venait de me donner la piqûre. Et si on veut écrire à ce collaborateur de Découverte Magazine...
Oui, vous avez les coordonnées?
Il y a les coordonnées, oui. Super. André. C'est le drindo35@gmail.com. Il était sur la plage de El Yaqui, sur l'île de Margarita, une île où on peut pratiquer la planche à voile, le kitesurf et la plongée avec tuba. Et puis, l'école Margarita Extrême, pour ceux qui s'intéressent, prodigue des cours de kitesurf, de planche à voile, oui, pour des coûts modiques. Et son propriétaire vient... c'est un Écossais qui vit à Margarita depuis 16 ans. Il s'appelle Murray Sampson. Et il se fera un plaisir de vous orienter vers les meilleurs endroits de l'île. Et puis, pour plus d'informations, on peut aller sur le www.margaritaextreme.com.
Est-ce que vous avez fait du surf ou de la planche
moi,
à voile?
Moi, j'ai jamais fait de surf, André, parce qu'en fait, j'ai le vertige un peu, j'ai un problème d'équilibre. Donc, peut-être essayer de relever le
défi. Ça pourrait être un moyen peut-être pour le traiter.
Tout à fait.
Parce que c'est vraiment exaltant, c'est vrai. Hein?
Vous en avez déjà fait.
Ah oui, j'en ai déjà fait, puis c'était vraiment excitant. Sauf quand le vent tourne et puis que vous êtes loin dans la mer. Je peux vous le dire aussi. Bien, moi, j'avais promis de parler des TDAH et je vous avoue, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que j'en suis atteinte légèrement. Et l'article en question dit que ça peut être un avantage aussi. Toute une nouvelle, hein?
Oui, et puis André, souvent on entend parler de cette abréviation-là, donc vous allez nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement.
Ah oui, les acronymes, on en utilise beaucoup hein, maintenant. Alors, merci de poser la question, hein, c'est une bonne idée. Alors, les TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, on va parler particulièrement du TDAH chez les enfants. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le cerveau de ceux qui en sont atteints, qui en sont touchés, fonctionne différemment. Parce que certains neurotransmetteurs comme la dopamine ou la noradrénaline ne font pas correctement leur boulot dans ce sens-là. Ces neurotransmetteurs, ils ont un rôle à jouer dans l'organisation des idées, le contrôle des pensées, la régulation du comportement. Et comme ils ne jouent pas leur rôle, ce sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces enfants-là. Mm-hmm. Alors, d'entrée de jeu, ou peut-être plutôt d'article, Isabelle Audette, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est un article qui a été présenté dans la presse du 3 novembre 2014 et écrit par Isabelle Audette, elle pose deux questions. D'abord, elle dit « Et si ces quatre lettres, donc TDAH, n'étaient pas un synonyme de difficulté ?» La seconde question, elle dit « Se pourrait-il qu'elles octroient plutôt un atout, une carte cachée dans le jeu de ceux qui les portent ?» Et pour y répondre, elle se réfère au livre de la psychologue Diane Duluth, qui est auteure d'un livre qui s'appelle « TDAH, une force à rééquilibrer ». Et la psychologue dit qu'elle refuse de voir la question sous l'angle d'un handicap, parce que c'est souvent comme tel qu'ils sont considérés, hein, et qu'il faut d'abord commencer à renverser la façon de voir ces enfants. C'est vrai qu'ils ont des frontières interpersonnelles qui sont très souples. Par exemple, s'il y a un bruit à gauche, ils vont s'attarder à écouter, à essayer de l'identifier, même si les copains ont tous les yeux rivés vers la droite. C'est un angle différent qui peut faire d'eux des êtres originaux, uniques même, parce que toutes les compagnies maintenant cherchent des individus qui sont capables de penser à l'extérieur de la boîte. Mm-hmm. Et eux, ils la possèdent naturellement déjà, donc un atout. Ce qui est important aussi, c'est de s'intéresser au regard que ces jeunes ont d'eux-mêmes. Parce que comme l'extérieur les considère comme inadaptés, eux, évidemment, ils se perçoivent comme tels. Et elle explique que c'est vraiment une définition d'eux-mêmes en termes de déficit qui leur nuit et qu'il faut valoriser cette incongruence, si on peut dire. Bon, ces jeunes, ils ont un rapport au temps qui est différent des autres. Pour eux qui bougent sans cesse, qui rêvent souvent, qui font du bruit, faire les devoirs, résoudre des numéros de maths, effectuer 6 tâches avant de partir à l'école, c'est pire qu'escalader l'Everest.
C'est tout un défi, un challenge pour le cerveau de ces enfants-là et surtout, en fait, de vivre au quotidien avec les autres membres de leur entourage. Mais pour les parents ou les adultes intervenants, quelle serait la meilleure façon de s'y prendre avec eux? Quel est leur défi à eux?
Oui. Alors, il y a deux points dans votre question. Mm-hmm. Donc, leur défi personnel d'abord, c'est d'apprendre à travailler avec leur personnalité. Pour profiter de l'avantage qu'ils ont, si on considère que c'est un avantage. Il faut aussi qu'ils apprennent à comprendre leurs mode de fonctionnement personnel à eux et à adapter leur façon d'aborder les travaux scolaires, les tâches quotidiennes, leur rapport avec les autres. Le support des parents, des intervenants, c'est indispensable. En tout cas, c'est nécessaire. Et particulièrement pour les tâches qui sont plus difficiles. Mais ils doivent être très attentifs parce qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de l'encadrement excessif. Mmh. On est tenté, on veut. C'est souvent comme quand on apprend quelque chose, on veut trop. Hein? Bon, ben c'est, il faut que les intervenants et les parents soient attentifs et qu'ils ne veuillent pas trop parce qu'ils doivent suivre les enfants, ça c'est sûr, à la trace. Mais du coup, ils peuvent les rendre dépendants d'eux-mêmes. Mmh. Et dans cette situation-là, à ce moment-là, évidemment, ce n'est pas un service qu'on rend à l'enfant puisqu'il n'intègre pas son mode de fonctionnement. Mais, et si on lui enlève la structure extérieure, la présence des parents, ça ne fonctionne plus. L'enfant, il a besoin d'un allié, il n'a pas besoin d'un sauveur.
Mmh, c'est bien dit. Bien
alors,
dit.
Donc, je pense que j'ai répondu à vos deux questions, hein?
En fait, la première, il y en a une deuxième. Donc, je demandais aussi comment s'y prendre. C'est quoi la prescription maître?
Alors, la prescription, ben, je ne sais pas si on peut dire la prescription maître, mais en tout cas, il y en a une qui est relativement facile à respecter puis qui est non médicale, c'est de bouger. Parce que ces enfants, naturellement, ils sont tout le temps en train de gigoter sur leur chaise, comme je suis en train de le faire pour vous. Ils sont tout le temps en train de regarder les mouches qui volent, n'importe quoi. Donc, la prescription vraiment facile à essayer de respecter, c'est de les faire bouger. Ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a plusieurs études qui vont toutes dans ce sens-là. Notamment des chercheurs québécois qui se sont penchés sur la question et qui sont formels. Je cite exactement. Tous les enfants s'améliorent après avoir fait du sport. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hein? Mm-hmm. On conseille à tous les parents de faire du sport à leurs enfants. Mais l'effet est plus important chez ceux qui ont un TDAH. Et ils ont un programme très ambitieux. Ils mettent en place une étude, un programme qui est de faire bouger 141 enfants pendant 30 minutes, 3 fois par semaine, pendant 3 mois. Et pour le moment, ben, les résultats, l'étude est en cours, donc les résultats vont venir prochainement.
C'est intéressant de savoir les résultats.
Oui, c'est sûr que ça va être intéressant, là.
Donc, le sport, est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est un traitement magique? Qu'est-ce qui...
Magique, peut-être, le mot est peut-être un peu fort, quand même. Hein? Mm-hmm. Ça serait trop beau, puis ça serait trop facile. Hein? Et puis, ça ne ferait certainement pas l'affaire des compagnies pharmaceutiques. Oh, bon, d'accord. Oh. Alors, sans doute que ce n'est pas le traitement magique. Mais justement, Isabelle Audette rapporte la réponse du docteur Martin Gignac qui dit « Le sport va venir en traitement d'appoint et peut-être permettre pour certains jeunes de diminuer la médication. » Ce sera déjà pas mal, hein? Mm-hmm. Parce qu'on sait que toute médication a des effets secondaires, donc ouais. Moins on en donne, mieux c'est. Mm-hmm. Et une étude américaine précise que l'attention, ça s'est écrit L'A2T, hein, pas l'attention. L'attention est l'une des variables les plus améliorées chez les enfants qui font régulièrement de l'exercice sur une base régulière et que, mieux encore, les répercussions se font sentir même les jours où aucune activité physique n'est au programme. Mmh. Alors évidemment, le défi des chercheurs maintenant, c'est de cerner quel type d'activité physique, on ne sait pas exactement laquelle est la plus bénéfique, à quelle fréquence et à quelle intensité. On ferait la même chose pour un nouveau médicament dont on chercherait la meilleure posologie.
La nuit est pas vraiment finie, assez juste cachée dans le matin. Sept heures et quart, 12 ans et demi, me semble que j'ai rêvé à rien. J'ai déjà sauté devant le train, ça traque, jamais frenché avec la langue. Des mots qui filent entre les doigts, ballon chasseur dans l'estomac. C'est moi. Les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air d'avoir toutes les réponses. Moi chez nous je bâtis des villes, je gagne des courses puis je tue des monstres. Je gagne des courses puis je tue des monstres. Chaque fois plus vieux quand il vient me chercher pour deux soirs. Dès qu'il parle, ça sonne comme un jeu, mais moi j'y crois plus, ces histoires. Tellement plus le goût d'avoir hâte, tellement bon pour faire semblant. Remettez-moi dans la boîte, demandez un remboursement. Maintenant. Les petits gars qu'on voit dans les films, ils ont l'air de faire des belles rencontres. Moi chez nous je bâtis des villes, je gagne des courses puis je tue des monstres. Je gagne des courses puis je tue des monstres. Surtout pas que ma mère entende les cris des filles nues dans ma chambre. Leurs paupières mauves battent des ailes, y en as-tu pour vrai des comme elles? Je voudrais recommencer toute ma vie, mais je peux pas dire ni où ni quand. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, l'œil de la nuit me regarde tout le temps, tout le temps. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai au-dessus des villes. Et j'irai aimer les monstres. Un jour je vais m'acheter des missiles que je contrôlerai avec ma montre. Et j'irai. J'irai aimer les monstres.
C'était Aimer les monstres d'Émile Proulx-Cloutier. Juste avant, on parlait des enfants avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On se demandait quelle activité physique est-ce que ces jeunes-là pourraient faire. Eh bien, peut-être qu'il pourrait aller à l'extérieur, justement, puisque c'est le temps de la neige en ce moment. Il y a beaucoup d'activités à faire dans les parcs.
Quand il ne fait pas trop froid.
Quand il ne fait pas trop froid. Mais sinon, avec le bon vent frais, juste question de s'habiller bien chaudement et peut-être d'aller faire un tour au domaine des Flocons, qui est situé dans la région de Hall-Gatineau. En fait, la région en Outaouais, pardon, donc dans la ville de Gatineau. Et je vous parle de ça parce que c'est un article que j'ai découvert sur le site web de la presse qui a été publié le 7 janvier dernier. C'est « Le domaine des flocons passe du vert au blanc » par Justine Mercier. Le temps froid a beau en faire rager certains, il est plus que bienvenu au parc Jacques Cartier de Gatineau. Alors que le site du domaine des Flocons avait l'air d'un terrain de golf pas plus tard que la semaine dernière, parce qu'on se rappelle que Noël dernier, en fait, il n'y avait pas de neige.
Ah, j'étais tellement déçue, c'était vraiment terrible ça.
Eh bien là, la production de neige va maintenant bon train pour ce parc-là en prévision de l'ouverture du bal de neige. Les organisateurs ont dû réviser leurs prévisions afin de s'assurer qu'un tapis de neige suffisamment épais soit en place pour l'arrivée des visiteurs. La quantité de neige qui était prévue à l'origine, c'était de faire plus ou moins entre 30 000 et 32 000 ou 33 000 mètres cubes de neige. C'est ce qu'a indiqué Benoît Brière, le responsable de l'aménagement du domaine des Flocons. Quand on a commencé ici le 29 décembre, ça ressemblait à un terrain de golf, c'était vert, donc on a décidé d'ajouter 2 000 à 3 000 mètres cubes de neige pour en étendre au sol. Et en ce moment, le coussin n'est pas assez épais et avec la foule qui va se rendre ici, on se serait rendu au gazon dans le temps de le dire. La quantité de neige requise cette année serait suffisante pour remplir 2500 camions bernes, c'est ce qu'ont illustré les organisateurs.
Ça ferait plaisir à la ville si on pouvait utiliser la neige qu'on récupère. Oui,
c'est une belle initiative, on pourrait faire ça.
Bon, elle n'est pas très belle, par exemple.
La belle neige. Les structures de glisse, oui, seront semblables à celles de l'an dernier. De nouveaux équipements permettront toutefois d'illuminer la glissade sur tube en soirée pour une toute première fois.
Est-ce que les adultes ont le droit d'y aller?
Les adultes ont le droit d'y aller, bien sûr. Et le bal de neige se déroule cette année du 30 janvier au 16 février.
Super.
Super. Nouvelle insolite maintenant, on s'en va en France. Un Savoyard a réussi à capturer l'araignée la plus dangereuse du monde dans ses bananes.
Incroyable, hein?
Incroyable. Et c'est le genre de rencontre, évidemment, qu'on préférait éviter. Ça s'est passé samedi, le 3 janvier dernier. Le gérant d'un magasin de produits biologiques en Haute-Savoie a eu la désagréable surprise de trouver une araignée dans un colis de bananes provenant de République dominicaine. Est-ce que Michel est en République dominicaine? Est-ce que c'est un tour que vous jouez?
Il est au Brésil.
Il est au Brésil.
Bon, je crois. Hein?
Et puis là, on apprend que c'est pas n'importe quelle araignée. C'est la Phonotria nigriventer. Donc, tu vois, c'est pas moi qui l'ai mis. J'ai de la difficulté à prononcer ce terme. Excuse-moi, araignée. Donc, aussi appelée araignée banane pour sa facétieuse tendance à se cacher dans les lots de fruits, elle est tout simplement considérée comme l'araignée la plus agressive et la plus dangereuse du monde parce que son venin est 30 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette et contient une neurotoxine capable de tuer un homme en moins d'une heure après, évidemment, de terribles souffrances.
Ça ne va pas arranger les gens qui ont peur des araignées, cette information. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui l'entendent.
Spider-Man vient à la rescousse parce que ce n'est pas la première fois que cette sympathique bestiole fait parler d'elle en Europe. L'année dernière, une famille britannique avait dû évacuer temporairement sa maison lorsqu'ils avaient découvert que celle-ci était devenue infestée de larves après avoir acheté des bananes. Et pour la petite histoire, bien, sachez que la morsure de cette araignée, avant de vous oxyre, elle provoque chez l'homme des érections de plusieurs heures très douloureuses. Aïe, aïe, aïe! Toujours dans l'insolite, un tour du monde de l'insolite. Saviez-vous qu'aux États-Unis, en fait, les États-Unis sont un leader mondial incontesté quand il s'agit de l'incarcération? Moi, personnellement, je ne suis pas surprise.
Non, moi non plus.
Les
Américains. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont plus graves encore.
Plus graves. Mais pour les Américains, ça représente 5 % de la population au monde, mais un quart de la population carcérale mondiale. Soit un peu plus de 2 millions de personnes. Au Brésil, pour un coucou à Michel, le Brésil couvrant environ 50 % du continent sud-américain, le Brésil produit 2 164 000 tonnes de café par année. Plus de 5 millions de personnes sont employées dans cette industrie.
Pas mal, hein? Café brésilien, il paraît qu'il est bon. J'en bois pas, mais je bois pas de café, mais il paraît qu'il est bon.
Est-ce qu'il est bon ton café, Michel? On lui demandera.
Hein?
Donc, aimez-vous mes nouvelles insolites? On continue le tour du monde en surface rapidement. Alors, en France, en comptant ses territoires d'outre-mer, la France couvre 12 fuseaux horaires et constitue le pays le plus étendu au monde. Alors voilà, c'était les petites nouvelles insolites. Maintenant, on fait une petite pause et on revient tout de suite après, n'est-ce pas, André?
Oui, pour parler de l'écotrafic en Afrique.
À tout à l'heure.
Écoutez. Kiosque Magazine.
Alors, suite au tour du monde insolite, on continue notre voyage. C'est un article trouvé dans le Afrique Magazine qu'André va nous lire. Alors, ça parle d'écotrafic. Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je t'écoute, je
oui,
suis
curieuse. Oui, l'écotrafic en Afrique, c'est quelque chose. C'est effectivement un article extrait de Afrique Magazine qui a été publié le 5 novembre 2014. Il n'y a pas de nom de journaliste. Alors, peut-être que vous allez voir, les informations sont telles qu'ils n'ont pas forcément envie d'être identifiés. Et c'était un très long article, mais j'essaye d'en faire la synthèse pour vous. Alors, vous me pardonnerez, je déteste les chiffres, mais là, je suis obligée de vous en donner quelques-uns. Bon, c'est devenu une véritable industrie qui génère, tenez-vous bien, d'emblée des chiffres, 200 milliards de dollars chaque année. Et l'Afrique en particulier est en train de se vider de ses richesses avec évidemment des conséquences terribles de perte de revenus, de saccage de l'environnement, disparition annoncée de certaines espèces d'animaux, je vais vous en parler. Alors pour exemple, il y a un petit animal, un petit mammifère insectivore qui ressemble à un petit atout à étail, qui s'appelle le pangolin. Il est très recherché parce que sa réputation vient du fait qu'il serait capable d'accroître la virilité masculine et de guérir diverses maladies. Il peut se monnayer jusqu'à 1000 $ le kilo. Hein, évidemment, braconnage optimal en perspective d'un massacre en règle. Alors, on pourrait se demander, mais alors, Viagra, Cialis, à quoi ça sert? On pourrait peut-être faire des changements. Bon, il n'est pas le seul convoité, parce que tout y passe. Les éléphants, les lions, les tigres, les rhinocéros, les gorilles, les requins, les tortues, les coraux, Tout est pillé sans vergogne, pauvre Afrique. Et jamais la communauté internationale n'a été confrontée à une telle dévastation sur une période aussi rapide.
Donc ça, c'est les animaux en voie de disparition. Est-ce qu'il y a des espèces en particulier? Quelles sont-elles?
Les espèces en particulier, alors. Le nombre de lions, de rhinocéros et d'éléphants a été réduit de 90% en moins d'un siècle. Les éléphants de la forêt, d'abord. La population a chuté de 62% ces dernières années et certains spécialistes commencent à craindre l'extinction de la race. D'abord, donc ça répond à votre question concernant les éléphants. Mm-hmm. Les rhinocéros, plusieurs espèces en sont déjà victimes. L'Afrique ne compte plus que 26 000 têtes. Bon, évidemment, les superstitions attisent ce massacre puisque leurs cornes, essentiellement, qui auraient des propriétés aphrodisiaques particulièrement intéressantes, se négocient aux alentours de 70 à 75 000 dollars le kilo.
Hmm.
C'est plus cher que l'or ou le platine.
Ben oui.
Hein? Les lions, porteurs de tous les fantasmes aussi, leur avenir est tout aussi sombre. Parce qu'il y a 100 ans, il y avait 200 millions. On parle de 100 ans, 200 millions de lions. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 15 000 à 20 000. Et selon les ONG qui travaillent en Afrique, les chasseurs auraient une grande responsabilité. Parce qu'en plus de tuer, ils ne tuent pas n'importe quels animaux. Ils tuent les mâles dominants parce que ce sont les plus beaux spécimens. Et malheureusement, c'est les mâles dominants sont le patrimoine génétique le plus important puisqu'il est supérieur à ceux des autres lions de la harde.
Mm.
Les tigres, 3000 individus dans le monde. Mais ce massacre animal ne suffit pas parce qu'en Afrique, le commerce illicite de charbon de bois rapporte lui aussi des centaines de millions de dollars à des groupes armés. Ce marché noir est estimé entre 2,5 et 9 milliards de dollars. Désormais, c'est plus rentable que le marché de la drogue. Alors écoutez, j'ai encore d'autres informations à vous donner. On va prendre une petite pause parce que je trouve que tout ça, c'est assez lourd comme information. On va respirer un peu et puis je vous reviens après la pause. Alors, je voulais vous donner d'autres informations. On a toujours entendu parler du trafic de l'ivoire. Et actuellement, l'ivoire se monnaie à 3500 dollars le kilo environ, essentiellement dans les rues de Pékin, mais probablement autant à Bangkok. C'est l'un des premiers marchés mondiaux.
Et qui sont les premiers destinataires, autres que Bangkok, de ces produits illicites?
Alors, effectivement, la Chine, c'est le premier destinataire. Plus de la moitié des cargaisons d'ivoire lui sont envoyées. Ensuite viennent les États-Unis et après l'Europe. Puis, on ne parle pas là, on parle juste de l'ivoire, mais on ne parle pas d'un invraisemblable bestiaire comme les crocodiles, les pythons, les tortues, les insectes, les coraux... même si maintenant, ce n'est pas forcément très bien vu de porter des ceintures en croco ou en python ou des trucs comme ça. Mais c'est terrible, ça.
Et puis, par quel circuit passent tous ces produits?
Alors, évidemment, ces bénéfices escomptés sont absolument immenses et une grande rentabilité, des faibles risques de détection et de poursuite. Et les circuits par lesquels on passe, c'est le grand banditisme international qui qui s'est même reconvertie dans ce trafic. Et puis même plus, là, les gains sont très rapides, ils sont très élevés, ce qui fait que même la vie humaine ne compte plus. Je vous cite textuellement. Selon la Fédération internationale des gardes forestiers, 1 millier de rangers, et le chiffre exact pourrait être 3 à 5 fois plus important, ont été tués ces 10 dernières années, dont presque 200 au Congo. C'est effrayant, hein?
C'est triste tout ça.
Oui, ça c'est triste. Mais actuellement, le crime environnemental global est estimé à 213 milliards de dollars par an. Il finance des groupes terroristes, je me passe de commentaires, des criminels et des milices, tout en menaçant le développement durable de nombreuses nations.
Mais il n'existe pas des règles internationales pour protéger ces gens-là, ces espèces animales-là en voie de disparition?
Bien sûr qu'il en existe, mais elles ne sont pas toujours respectées. Mais pourtant, il faut absolument que la communauté internationale réussisse à revenir et sécuriser, légiférer dans ces régions du monde. Et cela passe par tout un enjeu de coopération. 170 nations sont réunies sur le commerce international et édictent des règles qui sont valables pour l'ensemble des pays. Et de leur côté, même les pays africains aussi se regroupent eux-mêmes. Sur le terrain, Interpol agit, centralise, traite les informations au niveau mondial et mène un important travail de renseignement. Il est urgent d'agir, mais comment faire quand la Chine, on en parlait tout à l'heure, la Thaïlande, font preuve d'un laxisme à pelle voilée pour freiner l'extermination des éléphants? L'ONG Trafic a mis en évidence que le nombre d'objets a triplé en 18 mois. Aucun espoir? Pas bien grand. L'Afrique a condamné 40 ans de prison à un trafiquant thaïlandais de cornes de rhinocéros. Et le 22 juillet dernier, il a aussi condamné un trafiquant à 17 ans de prison pour braconnage. 62 autres attendent d'être jugés. C'était un article de Afrique Magazine publié le 5 novembre 2015.
Un sujet un peu plus scientifique maintenant, un peu plus sucré même.
C'est un. Il n'y aura pas de mal, hein?
Il n'y aura pas de mal, oui. Donc, c'est le fructose qui serait plus toxique que le sucre ordinaire. C'est par la presse canadienne. Ça a été publié le 6 janvier dernier sur le site de la presse. Et c'est une étude américaine qui démontre que des femelles souris qui ont consommé des quantités de fructose comparables à celles gobées par les humains, donc des quantités considérables de fructose, eh bien, ces femelles souris-là, elles étaient ensuite moins fertiles et vivaient moins longtemps. Et comment les chercheurs sont arrivés à cette conclusion? Eh bien, ils ont déterminé que le mélange fructose-glucose, donc le fructose synthétique, contenu dans le sirop de maïs à haute teneur, en fructose, oui, semble plus toxique que le saccharose ou le sucre ordinaire. C'est le professeur Wayne Potts de l'Université de l'Utah qui affirme qu'il s'agit de l'étude la plus robuste à jamais témoigner d'une différence entre le sirop de maïs à haute teneur en fructose et le sucre ordinaire à des doses pertinentes pour les humains.
Vous parlez de fertilité là chez les souris femelles, puisque est-ce que c'est la même chose chez les mâles?
Eh bien, aucune différence n'a été notée chez les souris mâles, aucune différence notable, possiblement parce que les deux sucres ont une toxicité comparable chez les mâles. Parce que l'étude a comparé deux groupes de souris à qui l'on a fourni une alimentation saine, mais dont 25 % des calories provenaient de sucres transformés. Il y a un groupe qui a consommé un mélange fructose-glucose similaire à celui du sirop de maïs à haute teneur en fructose, et l'autre groupe a consommé, oui, du saccharose. Eh bien, les femelles du premier groupe avaient un taux de mortalité près de deux fois supérieur aux femelles du deuxième groupe, et elles ont produit environ 26 % moins de rejetons. Les chercheurs croient que les différents sucres influencent la flore bactérienne intestinale de ces souris, d'où les écarts importants. Rappelons qu'il y a entre 13 et 25 % des Américains qui ont une alimentation dont 25 % des calories proviendraient de sucres ajoutés, ce qui équivaut au même pourcentage de sucres ajoutés que celui de l'alimentation des souris lors de cette étude.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver les conclusions de cette étude?
Les conclusions de cette étude doivent être publiées cette année dans l'édition de mars 2015 du Journal of Nutrition. Et puis, de rien. Ouais, quand c'est rendu que les souris prennent autant de sucre que les humains.
Oui, mais c'était drôle. C'était drôle parce que quand j'ai appris que Geneviève allait parler des sucres, j'avais moi-même trouvé un tout petit bout d'article qui est assez intéressant et qui concerne les édulcorants spécialement. Et en gros titre, il y a écrit « La prudence s'impose ». Plutôt que de prévenir le diabète, les édulcorants artificiels, ces faux sucres sans calories, favoriseraient son apparition, favoriserait donc l'apparition du diabète. Sont des chercheurs israéliens et l'équipe a réalisé ces expériences sur des souris qui avaient bu de l'eau à laquelle on avait ajouté soit de la saccharine, soit du sucralose ou de l'aspartame. Au bout d'une semaine, les rongeurs présentaient un signe avant-coureur de diabète, une intolérance au glucose qui se manifestait par une augmentation du taux de ce sucre dans le sang. Donc le sucre est l'ennemi
numéro
en 2015.
Un. L'ennemi public numéro un.
Sauf les sucres naturels
des fruits.
Des fruits.
Oui.
Voilà.
Des bananes, tu sais.
Ben voilà.
J'ai faim, j'ai soif, j'ai rien à manger. Mais ça me prend rien que quelques sous. Pour manger, boire, rester en vie. Souhaiter que demain soit meilleur. La vie se passe sans moi. Elle n'est pas supposée d'être comme ça. Ma vie sans moi, je peux pas l'imaginer. J'irai prouver que j'existe. J'irai prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop occupés à faire leur vie. J'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Mingi melni dañu fatti. 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 Je changerai de passeport pour un monde meilleur. Avoir le droit d'aller où je veux, sans me faire poser de questions. Dans tous les aéroports, je serai canadien, américain, brésilien,
Australiens, Français, Sénégalais, Burkinabés. Être citoyen du monde, juste pour leur prouver que j'existe. Il y a du monde partout devant nous qui disent n'avoir rien vu ou qui font semblant de ne rien voir. Trop qui perdent leur vie, j'irai leur prouver que j'existe. Juste pour me prouver que j'existe. Une mêlée de nos fatigues. Mungi melni de nyo fati, mungi melni de nyo fati, eyo. Mungi melni de nyo fati, mungi melni de nyo fati, mungi melni de nyo fati, eyo. La vie n'est pas facile quand on est sans le sou. La vie n'est pas facile quand on est sans famille. C'est pas facile quand on est sans appui. C'est comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas, c'est comme si on n'existait pas, non, 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 non. Comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas, c'est comme si on n'existait pas, non, 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 non. C'est comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas, c'est comme si on n'existait pas. Oh, 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 oh. Comme si on n'était pas là, comme si on comptait pas, c'est comme si on n'existait pas. Non, non, non.
Juste pour prouver que j'existe, c'était Karim Diouf. Et puis, on continue notre voyage à travers le monde et cette fois, notre objectif, c'est la ruée vers le sable. C'est ce que témoigne un article dans le Science et Vie d'août dernier, n'est-ce pas, André?
Oui, et qui est écrit par Emmanuel Deslouis. Donc, la ruée vers le sable. Il nous faut savoir que c'est la deuxième ressource naturelle la plus utilisée au monde après l'eau. Son exploitation a été multipliée par 3 en 20 ans et ceci commence à poser de graves problèmes. Alors évidemment, on a beaucoup de questions.
Mm-hmm. Et puis justement, la première, c'est pourquoi est-ce qu'on consomme autant de sable?
C'est comme presque une évidence, c'est parce qu'on en fait de très nombreux usages. On en fait du verre, il sert d'abrasif dans l'industrie pour décaper des pièces métalliques. Il peut servir de couche filtrante pour le traitement des eaux usées. Mais on en consomme massivement. 7 tonnes par an et par habitant, rien qu'en France. Et c'est principalement pour bâtir des maisons, des immeubles, des routes ou des ponts. Parce que le sable, c'est l'ingrédient de base pour fabriquer du béton armé, qui est le matériau de construction le plus utilisé au monde. On pourrait bien sûr construire des maisons en bois, en pierre de taille, mais depuis son invention à la fin du 19e siècle, on n'a rien trouvé de plus solide que le béton, et donc l'utilisation du sable, et surtout moins cher à produire que le béton armé. Donc, une quantité phénoménale de sable est utilisée dans la construction. Sachez qu'une maison de taille moyenne, par exemple, est constituée de 100 à 300 tonnes de sable. Je donne beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais c'est quand même important pour se donner une idée. Et on peut imaginer la quantité qu'il faut pour bâtir un hôpital ou pour bâtir un collège ou quelque chose comme ça.
Et puis, d'où tire-t-on cette ressource qui semble inépuisable?
Oui, ça semble inépuisable. C'est bien d'utiliser ce mot-là parce que les réserves naturelles de sable, elles sont partout où il y a un lit de rivière, un estuaire, un littoral. Et cette matière première, c'est rien d'autre que de la roche qui a été fractionnée, roulée par les courants d'eau jusqu'à former des petits grains. Et aussi, il y a une autre façon, en dehors de l'utilisation qui peut être extraite du fond des rivières, c'est qu'on l'extrait donc de carrières. Le sable est récupéré directement à la pelleteuse en creusant le sol et à ce moment-là, évidemment, on a du sable comme naturel. Mais ces carrières, elles sont situées près de champs, près de villes, près de routes. Elles ne sont donc pas extensibles, ce qui fait qu'évidemment, on ne peut plus empiéter sur les constructions. Et du coup, les producteurs de ce qu'on appelle de granulats se sont tournés vers d'autres sources, comme le sable de concassage ou le sable des fonds marins. Alors, ce sable, il est aspiré par des bateaux qui sont équipés de longs tuyaux reliés à des pompes. Et pour l'instant, l'exploitation de ces gisements marins est marginale. En Europe, elle représente à peine 2% de la production. Mais elle risque de devenir plus importante, ne serait-ce qu'à cause de l'épuisement progressif des gisements traditionnels des carrières.
OK. Il y a un risque à extraire le sable du fond des mers. Quel est ce risque?
Ben évidemment qu'il y a un risque. Dès qu'on touche au fond de la mer, on a un risque important. Et c'est celui de détruire l'environnement marin. Parce qu'en aspirant le sable avec des tuyaux, les bateaux arrachent du fond de la mer des espèces animales et végétales qui y vivent. Puis ils rejettent des particules plus fines que le sable, ce qui trouble l'eau, perturbe les organismes marins. Enfin, en se redéposant au fond, ces particules forment un manteau de vase qui recouvre les frayères où se reproduisent poissons et crustacés. Alors, écoutez, l'article est un petit peu long. On va faire une petite pause, parce que ce ne sont pas des bonnes nouvelles que j'annonce, là. Et on va reprendre tout à l'heure.
En tout cas, c'est un article bien, bien construit concernant la ruée vers le sable, parce que justement, il y a des questions et avec les réponses. Et puis justement, c'est très, très bien construit, très instructif. Et puis la prochaine question. On parlait du risque à extraire du fond des mers. Maintenant, sur les plages, qu'est-ce qui se passe avec les plages? Est-ce qu'elles sont menacées?
Ah oui, elles sont menacées, c'est sûr. Bon, ça dépend un petit peu des endroits du monde. C'est pas pareil, c'est pas partout pareil. Mais je vais vous donner quelques exemples qui sont assez... assez impressionnant. Alors, en France, il n'y a pas trop de problèmes parce que l'exploitation est très surveillée, encadrée par des lois très strictes. Mais un rapport des États-Unis qui est paru en mars dernier pointe les dangers de la surexploitation dans d'autres endroits du monde. Au Maroc, par exemple, c'est presque drôle d'ailleurs. Certaines plages qui sont situées entre Safi et Essaouira ont disparu. Le sable est transformé en béton pour construire des hôtels. Alors, je disais que c'est presque drôle parce qu'on construit des hôtels où débarquent évidemment des touristes qui sont venus, paradoxalement, pour les plages des Essaouira et qui se retrouvent devant un paysage lunaire.
Des plages de béton.
Des plages de béton et de rochers. Le même genre de pillage a cours en Afrique, comme en Sierra Leone, aussi dans l'état du Kerala, en Inde, au Cambodge, en Indonésie, en Jamaïque, sur toutes ces côtes. Le prélèvement excessif de sable a fait reculer les plages de plusieurs mètres, les menaçant de disparition.
Et puis, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça?
Oh, il y a des solutions, mais ce que je voudrais faire, ça serait peut-être encore avant, vous parler encore d'autres endroits qui sont dramatiques. En Asie, on assiste à une vague de construction frénétique. On sait que l'Asie, en ce moment, c'est vraiment la montée. Tenez-vous bien, la cité-État de Singapour, par exemple, a agrandi sa surface de 130 km² en gagnant du terrain sur la mer. Et ces 20 dernières années, Singapour a importé plus de 500 millions de tonnes de sable. 24 îlots indonésiens ont carrément disparu depuis 2005. La plus grande réserve d'eau du pays en Chine est asséchée. Alors, vous posez la question...
Qu'est-ce qu'on va faire?
Oui. Bon, y a plusieurs pistes. Utiliser le recyclage du béton concassé, bonne chance. Il faut convaincre les gouvernements parce que les Nations Unies s'opposent contre la surexploitation du sable, encouragent l'utilisation du substitut dans la fabrication de béton, mais ce n'est pas forcément respecté. Alors, c'est un peu triste, mais voilà, c'était cet article sur la ruée vers le sable.
C'est ce qui conclut cette édition de Kiosque Magazine du mardi 13 janvier 2015. Donc, Michel profite du beau temps et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine au micro. C'était Geneviève Patterson avec André Étienne. Et puis, espérons que la semaine prochaine, on ait de meilleures nouvelles. Et puis, justement, tu avais un article bien particulier sur l'art et les non-voyants, je crois.
Oui,
hein?
Je vais vous en parler la semaine prochaine, absolument. Là, vous allez pouvoir... ceux qui sont atteints de cette difficulté, touchés à quelques œuvres d'art. Je vous dirai comment et quand et où.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.